Toujours dans cette phase de formation du contrat, nous allons parler de la promesse et du pacte de préférence. Alors, la promesse et le pacte de préférence, ce sont eux-mêmes des contrats. Mais ce sont des contrats qui sont préparatoires à un autre contrat. Parce que la promesse, alors la promesse dont on parle, c'est la promesse unilatérale, eh bien, c'est l'engagement que prend le promettant de conclure un contrat si l'autre partie, le bénéficiaire de la promesse, lève l'option. Et le pacte de préférence, c'est le contrat par lequel on s'engage à donner la préférence à une personne pour conclure un contrat. Donc, promesse de contrat, pacte de préférence relatif à la conclusion d'un contrat, ce sont des contrats, mais des contrats qui sont préparatoires à un autre contrat. Alors, nous avons, sur le pacte de préférence, nous avons maintenant un texte, l'article 1123 du Code civil, qui va encadrer le pacte de préférence. Prenons ce texte. Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Donc c'est bien ce que nous avons dit, c'est un engagement. On est encore loin du contrat final, c'est simplement un engagement de proposer prioritairement de traiter avec l'autre partie. Et puis, on va voir quelles sont les sanctions du pacte de préférence. Imaginons que j'ai pris l'engagement de vous proposer en priorité d'acheter mon bien. Je découvre qu'un contrat est conclu avec un tiers, ou plutôt, dans mon exemple, je dois vous proposer en priorité de vous vendre mon bien, et vous découvrez que, finalement, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre en violation du pacte de préférence. Eh bien, première sanction possible, vous pouvez obtenir la réparation du préjudice subi. Si vous démontrez que je vous ai causé un préjudice en ne respectant pas notre accord, le pacte de préférence, vous pouvez être indemnisé du préjudice qui vous est causé. Et puis, lorsque le tiers à qui j'ai vendu en violation du pacte connaissait l'existence du pacte et votre intention à vous bénéficiaire de vous en prévaloir, vous pouvez alors agir en nullité ou demander au juge de vous substituer au tiers dans le contrat conclu. J'ai vendu ma maison, par exemple, en violation du pacte de préférence que je vous avais consenti. Je l'ai vendu à un tiers. Vous pouvez faire annuler la vente faite à ce tiers, ou vous pouvez demander à être substitué à lui, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre la place de l'acheteur dans le contrat, et donc vous allez vous retrouver acheteur dans un contrat conclu aux conditions qui avaient été celles conclues par ce tiers. Alors, possibilité qu'on donne au tiers, ce qu'on appelle une action déclaratoire, le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. Donc si le tiers se demande si, par hasard, je ne vous aurais pas consenti un pacte de préférence, il peut vous écrire et vous demander de lui dire s'il y a un pacte de préférence. Et l'écrit qu'il vous adresse, c'est le dernier alinéa de l'article 1123, doit mentionner qu'à défaut de réponse dans le délai qui vous a été indiqué, eh bien, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter la substitution au contrat ou la nullité du contrat. Donc voilà, tout d'abord, le pacte de préférence, disons-le clairement, on a repris en partie, du moins une partie du texte est une reprise de solutions jurisprudentielles. Lorsque l'on vous parle de la sanction de substitution, c'est l'alinéa qui nous dit que le bénéficiaire peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu, c'est une solution qui avait été formulée par la Cour de cassation en 2006, et donc cette solution est reprise par l'article 1123 du Code civil. C'est une bonne chose parce que ce sont des contrats fréquemment conclus qui servent beaucoup en pratique, et il est important d'avoir des textes qui les encadrent et qui définissent clairement leur régime. L'autre contrat qui lui est visé par l'article 1124, l'autre contrat préparatoire, l'autre avant-contrat, c'est la promesse unilatérale, donc promesse unilatérale qui est définie par l'article 1124. Et ensuite, surtout ce qui nous intéressera, c'est l'alinéa 2 de l'article 1124 qui nous dit, je le lis, « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. » Alors, C'est important, cette phrase. C'est important parce que cela remet en cause une jurisprudence qui était une jurisprudence critiquée. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. C'est la fameuse jurisprudence consort Cruz, l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993. Vous avez une personne qui consent une promesse. À des époux, les consorts Cruz, qui consent une promesse, promesse qui porte sur la vente d'un bien immobilier. Les bénéficiaires ont un délai pour lever l'option, donc pour dire s'ils veulent se porter acquéreurs ou non. Et avant qu'ils le fassent, avant qu'ils aient le temps de lever l'option, eh bien, le promettant leur dit qu'il se rétracte, qu'il retire sa promesse. Vous avez donné un délai de 3 mois aux bénéficiaires pour qu'ils lèvent l'option, et avant que le délai soit expiré, et avant que le bénéficiaire ait pu lever l'option, eh bien, le promettant lui dit « mais non, mais finalement, il n'y a plus de promesse ». La Cour de cassation, dans cet arrêt, refuse eh bien, d'ordonner l'exécution forcée en nature de la promesse. Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait, ou du moins qu'est-ce que cela aurait produit? Si la Cour de cassation l'avait accepté, le résultat, ça aurait été que, eh bien, on aurait considéré que la vente était formée. Vous avez 3 mois pour lever l'option, le bénéficiaire a 3 mois pour lever l'option. Eh bien, si on oblige le promettant à maintenir l'option disponible pendant les 3 mois, on dit qu'il ne peut pas se rétracter, et à ce moment-là, même s'il se rétracte, peu importe, le bénéficiaire peut lever l'option et la vente est considérée comme formée. Mais la Cour de cassation avait dit à ce moment-là, non, ce n'est pas possible parce qu'il y a une obligation de faire simplement. Le promettant n'a pris qu'une obligation de faire, qui est une obligation de conclure le contrat de vente certes, mais obligation simplement de conclure le contrat, et cette obligation n'est pas susceptible, par application de l'article 1142 ancien, désormais du Code civil, cette obligation n'est pas susceptible d'exécution forcée en nature. Et donc la seule sanction, c'était des dommages à intérêts. Dommages à intérêts, ce qui veut dire que il faut rapporter la preuve d'un préjudice. Le bénéficiaire de la promesse n'a pas pu obtenir formation de la vente et il doit en plus faire ce travail de prouver le préjudice qu'il a subi. Donc c'était une solution qui était critiquée, qui avait été maintenue en dépit des critiques par la Cour de cassation, maintenue par la troisième chambre civile, rejointe ensuite en 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Et c'est cette solution qui est clairement remise en cause lorsqu'on nous dit que la révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. On précise également que le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l'existence, un tiers de mauvaise foi, eh bien ce contrat est nul. Donc, en synthèse, c'est une bonne chose que la réforme ait consacré deux articles riches, deux articles qu'il faut lire avec attention, à ces deux avant-contrats qui servent beaucoup en pratique. Et c'est une bonne chose qu'on ait aussi renforcé leur efficacité, parce que avoir une promesse, notamment promesse unilatérale, que finalement qui n'a pas grande valeur, parce que on ne pourra pas la faire exécuter en nature de manière forcée, mais obtenir simplement des dommages-intérêts, eh bien, ce n'était pas une bonne chose pour l'efficacité, pour la fiabilité de notre droit, et c'est quelque chose qui est corrigé par l'ordonnance du 10 février 2016.